Minute, bon, OK. Bonjour, mesdames et messieurs. Désolé pour ces petits accrochages techniques. Donc, bienvenue à Jason Ballon Rond. Nouvel épisode, ça fait longtemps qu'on s'est parlé. C'est Olivier Prince-Grelot à l'animation. Je suis en compagnie de Thomas Lafond et de Doualé Ibrahim. Comment ça va, les gars?
Ça va très bien, ça va très bien. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. M'en ennuyer.
Oui, ça fait longtemps. On aime ça faire des Jason Ballon Rond, mais on n'a pas tout le temps le temps. Notre dernier épisode était quand même assez légendaire. Là. Un débat entre la fin de l'épisode, c'était un débat sur le GOAT. Fait que si vous l'avez pas entendu, cet épisode, allez le voir tout de suite. Mais là, on est de retour pour un épisode d'actualité sur dans le monde du ballon rond. Parce qu'en janvier, on sait qu'il se passe bien des choses sur la planète.
Un des mois préférés à Fabrizio Romano.
Et Fabrizio, là, lui, il ne doit pas dormir. Là. Je ne sais pas comment il fait. Là.
Il y a 4 mois pour se reposer, je recommence.
Se reposer, c'est entre guillemets, hein, parce qu'il y a d'autres actualités, même quand il n'y a pas de transfert. Hein. Exactement. Nous autres, parlant d'actualité, on va commencer avec le segment CF Montréal, parce qu'on commence toujours par ça, l'équipe d'ici, comme on dit. La saison, là, ça commence quand même très bientôt. C'est très proche, dans moins d'un mois. Premier match du CF Montréal, c'est le 25 février en MLS contre l'Inter Miami. Donc, dans moins d'un mois, comme j'ai dit. Les gars, il y a plusieurs choses qui se sont passées dans la saison morte, mais surtout des départs, malheureusement. On aurait peut-être voulu plus d'arrivées que de départs. Mais il y a des arrivées, mais... Ça fait peur pour le début de la saison. Comment est-ce que vous envisagez le début de cette saison-là? Je vais commencer par toi, Dou.
Écoute, je ne sais pas vraiment comment décrire le début de saison parce qu'il n'y a pas encore eu lieu, mais la chose que je peux dire, c'est que ça va être, je sens que ça va être une saison de transition. J'ai vraiment le CF Montréal au cours des deux dernières années avait tellement bâti quelque chose de, disons-là, d'assez solide. Avec Wilfred Nancy, avec tous les joueurs qui étaient en place, mais là, avec autant de départs puis peu d'arrivées pour l'instant, je suis extrêmement sceptique face à la nouvelle saison, à la saison à venir du CF Montréal. Mais écoute, il faut rester positif quand même pour le CF Montréal. Là, la grande question, c'est est-ce que Kamal Muller va rester? Ça, c'est vraiment la question qu'il faut se poser à l'heure actuelle, parce que si lui, il part, là, tu perds presque toute ta défense en l'espace d'un mercato. Puis ça va faire extrêmement mal au CF Montréal. Là. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer dans ce dossier-là. Puis évidemment, tu as le dossier de Kai Kamara qui était supposé d'être parti, mais que finalement, il est à l'entraînement, mais qu'il est un peu écarté du groupe à l'entraînement. Donc,
il avait demandé un échange.
Il a également demandé un échange. Puis écoute, il y a beaucoup de points d'interrogation du côté du CF Montréal. Puis j'ai hâte de voir la fin du mercato parce que là, il manque pour vrai de joueurs, là, d'impact. Là. Puis ils n'ont pas le choix d'aller chercher du monde qui peuvent non seulement jouer, mais du monde, des joueurs peut-être d'impact comme moi qui peuvent être sur l'alignement, sur le 11 partant. Là.
Tom, t'es bien sur Kamal Muller, là, tu reviendras là-dessus si tu veux, mais là. Si lui part, comme le dit Dou, ça fait un très gros morceau qui part parce que on a Joel Waterman, on a Rudy Camacho, on a George Campbell qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il va donner, mais aucun de ceux-là est un défenseur aussi impérial que les Miller. Fait que ça
peut faire très mal. Et Johnson aussi, c'est bon.
Johnson, on est allé chercher Aaron Herrera là, qui joue à la même place que lui. Ouais. J'ai entendu des bonnes choses sur lui, mais est-ce qu'il va être aussi bon que Johnston? Je ne pense pas, mais on va lui laisser sa chance. Mais vas-y, qu'est-ce que t'en penses?
Écoute, évidemment, ça, on en a parlé, il y a des gros trous dans le line-up, même avec la présence de Johnston, de Miller dans l'équipe. Mihailovic, Ismaël Koné, Johnston, c'était des très gros morceaux de l'an dernier. Kamara qui veut quitter. Donc, je ne pense pas qu'on a nécessairement remplacé tous ces morceaux-là. Comme que Dou a dit, ça va être une transition avec un nouveau coach en même temps. Il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Je pense que si le CF fait une série, ça va être par la porte en arrière. Ça va être quand même une bonne équipe, mais ça va être une Trostra pour l'an dernier.
Tout à fait. Bon, on a parlé de la défense. Côté gardien de but, Tom, tu viens d'avoir une nouvelle juste pour nous. Là, bon,
oui.
Il y a Miller qu'on a dit qu'il n'a pas répondu aux journalistes, donc hier. Alors là, c'est les rumeurs de départ s'accentuent. Mais il y a quelqu'un qui est parti, ça a été confirmé, Tom, Sébastien Breza, gardien.
Oui, ben j'ai vu ça. J'ai fini de voir sur Twitter, ça fait peut-être 10 minutes. Qui s'en va en série C, la troisième édition italienne, avec le club. J'essaie de retrouver le club. C'est un club de troisième édition italienne en prêt. Donc, écoute, ça reste à voir ce qui va se passer avec lui. Mais donc, les gardiens devraient être les gardiens pour le CF la saison prochaine. Ils vont être Parthémis et Sirois.
Donc, ça fait en sorte que Parthémis, pour le début de la saison, est le gardien numéro un, clairement. Mais j'ai hâte de voir vraiment ce que va faire Jonathan Sirois. On en entend beaucoup parler de lui. Enfin, il va avoir sa chance de disputer quelques matchs, on l'espère. Peut-être en League Cup, c'est comme ça que ça s'appelle, je pense.
La nouvelle compétition.
Avec le Mexique et tout. Là, donc, peut-être en championnat canadien, peut-être en League Cup. Donc, on va voir combien de départs Sirois va avoir, mais j'ai bien hâte de le voir à l'œuvre. Puis, bien, c'est ça. Là, on a parlé de la défense. Les autres tiers du jeu montréalais. Le milieu de terrain, bon, la bonne nouvelle, milieu de terrain, c'est que Wanyama revient. Ça, s'il avait fallu remplacer Wanyama, ça aurait été terrible encore plus. Mais là, Wanyama revient. Piet est encore là. On a Mathieu Choignard qui peut jouer à peu près partout au milieu. Là, on l'a vu. Là. On a Hamdi qui n'a presque pas joué l'an passé. Rida Zouir. Donc, le milieu, je pense que, tu sais, on a quand même Piet Wanyama qui sont deux solides pièces. Je pense que ça fait un petit peu moins peur. Moi, ce que j'ai vraiment gros point d'interrogation, c'est le milieu offensif. Où est-ce que Mihailovic, ben, sa seule doublure potentielle, c'est Matko Miljevic. Puis, je suis vraiment pas sûr que Miljevic peut remplacer Mihailovic. D'où, t'es d'accord avec moi là-dessus?
Ah, je suis 1000% d'accord là-dessus. Georgi Mihailovic était quand même un morceau assez important de l'attaque du Centre Montréal. Bon, il y a eu des hauts et des bas l'an passé, puis surtout dû à sa blessure là, en milieu de parcours aussi, ça l'avait pas aidé. Mais pour vrai, Miljevic, je m'excuse, mais comme il est pas mauvais là, loin de là, mais pour moi, c'est pas dans le 11 de départ du CF Montréal. Là, genre, il faut clairement que le CF trouve un milieu offensif. Même là, j'allais dire aussi au niveau des latéraux également aussi. Il n'y a pas tant d'options du côté du CF Montréal. Du côté des deux ailiers, ça aussi, c'est un autre point d'interrogation, mais je suis 100% d'accord avec toi là-dessus. Mihailovic, hâte de voir si le CF va être capable de vraiment pallier son absence. Mais pour l'instant, son départ. Mais non, je suis même 1000% d'accord avec toi. En ce moment, Miljevic, pour moi, c'est pas la solution, loin de là. Il y a peut-être qu'on va se tromper avec ici.
Ben c'est ça, Miljevic a juste 21. Puis il n'a pas eu énormément de temps de jeu dans les dernières saisons. Fait qu'il peut toujours encore se progresser et s'améliorer. Mais pour le moment, en tout cas, je pense vraiment pas qu'il peut prendre. La position numéro 10 de milieu offensif, c'est vital là, dans un effectif. Fait que, en ce moment, je pense pas qu'il est prêt pour ce poste-là, mais on va voir. Puis tu as parlé des alliés, ça va vraiment dépendre le système de jeu que le Sada va employer. Là, est-ce qu'on va retourner avec des pistons? Si on retourne avec des pistons, ben peut-être que là, Herrera va pouvoir prendre le poste de Johnston, puis Lapalainen va retourner au poste qu'il avait l'an passé. Mais ça va être à voir.
Excuse-moi,
vas-y, Tom.
Quand on parle de pistons, on parle de wingback.
Mm-hmm. Ben, on parle oui, mais plus avancé, tu sais, comme on jouait l'an passé.
OK, oui, oui. Mm-hmm.
L'an passé, on jouait un latéral, mais qui contribuait aussi beaucoup à l'offensive avec des centres.
Oh, ouais. Mm-hmm.
C'est comme Lapalainen et Johnston l'an passé.
C'est ça, c'est des wingbacks.
Oui, exactement. Un peu comme Alexander Arnold du côté de Liverpool aussi.
Exactement.
C'est ça la différence, c'est que Liverpool et Alexander Arnold ils jouent avec 4 défenseurs. Nous, c'est un système à 5 l'an passé, tu sais, le CF. Okay. Je ne sais pas ce que Lozada va faire, honnêtement, mais. Avec Nancy, le système marchait très bien. Est-ce que le Sada va changer de système? Peut-être, vu qu'on n'a pas les mêmes joueurs. On va voir.
Ouais.
Mais à l'attaque maintenant, l'attaque, écoute, que Camara, on l'a dit, ça va, on ne sait pas ce qui se passe avec lui. S'il s'en va, on va clairement manquer de profondeur, à moins que Mason Toy reste en santé et produise. On l'a vu qu'il a été capable de produire, pas l'an passé, mais l'autre saison d'avant. Ouais. Donc là, ça serait vraiment, il faudrait vraiment à côté montréalais que Toy produise. Mm-hmm. Puis sinon, Tunisie Ibrahim, je ne sais pas ce qu'il va donner, puis si Romel Kyoto va être encore à sans forme.
Est-ce qu'il est dans ta famille, Edou?
Comment?
Non, malheureusement, non. J'ai posé la question dans le passé. Tunisie Ibrahim n'est pas dans ma famille. C'est dommage, ça aurait pu être le fun, mais ça aurait pu me permettre d'avoir des billets gratuits pour aller voir le match d'UCF, mais...
Ouais, tu aurais pu lui donner des conseils aussi, tu sais.
Exactement. Sur quoi ne pas faire, par exemple, tu vois. Ça aurait pu être bon, mais bref. Malheureusement, il n'est pas dans ma famille.
Bon. Ben oui, Tom, vas-y.
Ben oui, il y a également aussi Torres qui est parti hier.
Ouais. En section de Philadelphie pour de l'argent en gamme.
Ouais. Écoute, pour ce qui est d'attaque, encore une fois, c'est le même problème que c'est un problème qui cause de position, gros manque de profondeur, de l'incertitude beaucoup. Que tu penses qu'en fait, je suis répété, mais ça va être beaucoup d'incertitude du côté de l'attaque du CF, surtout que tu perds deux gros créateurs de chance en Mihailovic et Koné. Ça va être ça.
Est-ce que Kyoto marque encore 16 buts? Mais je pense que c'est ça, 16 buts. Est-ce qu'il marque encore 16 buts, Kyoto?
Je pense pas.
Moi non plus, je pense pas. Je suis quand même un peu sceptique par rapport à ça.
C'est ça, mais je pense pas non plus. Ça fait que c'est des buts qu'il faut qu'ils reviennent dans le système, là, comme on dit. Fait que là, faut que Toy en marque, faut qu'Ibrahim en marque, faut que Kay reste et en marque. Si Kay part, qui va marquer ces buts-là, qui va manquer? C'est plein d'incertitudes, comme Tom le disait. Fait que, les gars, petite prédiction avant que la saison commence. Où est-ce que le CF Montréal finit au classement de l'Est?
Moi, je pense qu'ils vont être un peu ils vont être à l'extérieur des séries. Mais je pense qu'ils vont avoir des petits moments forts dans la saison, mais ça risque d'être extrêmement difficile. Moi, si j'avais une prédiction à dire, je pense que je vais y aller avec une 10e position pour le CF. Donc, hors des séries.
Okay. Je suis un peu plus optimiste que toi. Je dirais 8-9e rang, mais encore une fois, je pense que le CF va rater ici.
Mais il me semble 8e, tu l'es fait cette année, je pense. Hein? Il me semble qu'ils ont modifié le système. Je pense qu'en 8e position, tu l'es fait, les séries.
Ah, ben, en tout cas, ils vont manquer les séries, mais pas gros.
Moi, écoute, les gars, ça va peut-être vous surprendre, mais depuis 2 ans, le CF nous surprend. T'sais, l'an passé, personne ne pensait qu'il finirait 2e. Il y a 2 ans aussi, il avait passé très proche des séries alors qu'on les voyait dans le fond. Fait que moi, je dis dernière place donnant accès aux séries, donc je crois que c'est la 8e place. Fait qu'un petit peu plus optimiste que Tom. Je me dis que Kay va rester parce que lui, il va aller à Columbus pour rejoindre Nancy. Mais j'ai pas l'impression que Columbus veut vraiment l'avoir parce qu'il aurait fait signe s'il voulait l'avoir, j'ai l'impression. Puis j'ai pas entendu d'autres rumeurs par rapport à eux. Donc j'ai un feeling que Kay va rester et qu'il va aider l'attaque. Wanyama qui reste avec Piet, je pense qu'on a encore un milieu offensif solide. La défense, c'est une grosse énigme. L'attaque aussi, surtout si Camara part. Mais je vais rester optimiste, moi. Puis je vais dire 8e position, on va faire les séries dans la tour de très juste, mais c'est une prédiction très, très risquée, effectivement. Ouais. Alors, les gars, on va quitter l'Amérique du Nord. On va s'en aller en Europe avec le mercato des transferts. Et là, avant, sans plus tarder, on parlait de Chelsea. 209 millions dépensés en janvier 2023, Chelsea.
Écoute,
c'est stupide. Vas-y, hein.
Est-ce que Pauly connaît c'est quoi le fair play financier? Honnêtement, je sais que c'est un gars de baseball. C'est le propriétaire des Dodgers. Tu sais, au baseball, il n'y a pas ça de cap salarial. Oui, il y a une taxe de luxe, mais bon, écoute, ça se dépasse facilement. Pour lui, ça doit être comme au Monopoly. Là, je ne sais pas. Honnêtement. 209 millions en janvier.
Je veux dire, même... Il n'est pas fini le mois de janvier, hein. Il y a mal au gusto, là, peut-être.
Oui, il reste encore 4 jours. Ouais, ils ont signé un défenseur de Lyon pour 32 millions. Puis cet été aussi, on a dépensé presque 400 millions. Ouais, ça revient.
C'est
ça. Il s'en vient sur 600 millions. Pour
600 millions. Presque 600 millions en 6 mois. C'est
énorme.
Écoute, si ça, ils vont pas prendre pour le fair play financier, je ne comprends pas. Comprends pas.
Moi, tu sais, ce qui me fait rire dans tout ça, c'est qu'imagine-toi dépenser autant de millions d'euros pour terminer 10e de première ligue. Ouais. C'est quand même assez incroyable là, qu'on y pense. Tu as ça en ce moment, là, genre la saison qu'elle a en première ligue, là, c'est horrible. Là. Genre, il y a des lacunes graves. Là, genre, oui, évidemment, j'en ai souvent parlé cette saison, le fait qu'il y a un manque flagrant d'avancante, ça fait mal à Chelsea. Mais en plus de ça, guys, genre, la blessure de Reece James a tellement fait de mal à Chelsea que j'en revenais pas. On dirait qu'au moment que Reece James a quitté cette défense-là, on dirait que ça s'est tout écroulé. Et Koulibaly, que j'ai vanté parce que je pense que c'est quand même un des défenseurs les plus solides au monde. Même lui, il connaît des difficultés. Pourtant, je joue avec Thiago Silva, c'est pas rien. Oui, Thiago Silva a quand même âgé de 38 ans, mais j'allais dire, c'est quand même une. Tu as ça quand même une bonne chance défensive. T'as Edouard Mendy qui n'est plus titulaire. Ouais, c'est Edouard Mendy, ouais. Qui est plus titulaire du côté de Chelsea. Maintenant, c'est rendu Kepa. Je crois qu'il est rendu qui est gardien numéro 1 maintenant de Chelsea, je me trompe pas, qui est redevenu gardien numéro 1 de Chelsea. Puis tu regardes le reste. Genre, dépenser autant de millions de dollars sur des postes que tu n'avais pas besoin de combler.
Comment est-ce que ces joueurs-là se développent quand il y a tellement d'autres joueurs et qu'il n'y a pas de temps de jeu disponible? On ne vend personne. Pulisic, Ziyech, ils ne jouent presque pas. Pourquoi est-ce qu'on ne les vend pas? Ça fait qu'en sorte qu'eux restent. Donc,
présentement, je veux dire, il y a quand même 11 joueurs qui ne vont même pas être sélectionnés dans l'effectif de Premier League après le mercato. Je veux dire, excuse-moi, là, ces joueurs-là, tu chies leur développement, tu détruis ça. T'es rendu avec tellement d'alliés ou de cam à Chelsea. Modric, là, qui a connu un caméo super intéressant contre Liverpool, là, mais t'as déjà Sterling en avant de lui. T'as à l'aile, ils sont remplis. Là, ils ont de nouveau.
Connor Gallagher,
Dastro Fofana.
Dastro Fofana qui joue pas parce qu'il n'y a pas de place.
Ouais, puis le gars de PSV qui ont cherché, je ne sais plus comment il s'appelle.
Madueke.
Ouais, ça, Madueke. Il va jouer où? Il va jouer quand?
Il joue pas. C'est ça l'affaire.
Puis comment tu fais pour garder ta chimie d'effectif, comment tu fais pour c'est Graham Potter, comment tu fais pour garder des joueurs contents si faut que tu fasses jouer tout ce monde-là?
Puis João Félix aussi, il était João Félix qui arrive en prêt juste pour 6 mois. Lui, ça aussi, c'est un dossier qui risque d'être intéressant. Ça va être quoi l'utilisation de João Félix? Est-ce que João Félix va être un titulaire indiscutable? Ça aussi, c'est un autre point intéressant. Puis encore une fois, l'an prochain, il y a Christopher Nkunku qui est supposé d'arriver.
Oui, c'est vrai.
Fait que là, qu'est-ce qui va arriver du côté de Chelsea? Tu vas avoir une congestion à l'attaque, mais personne, encore une fois, à l'avancement. Ils vont faire la passe à qui va être le buteur? Il n'y a pas de buteur. C'est Aubameyang meilleur en ce moment, ton buteur. Puis Aubameyang meilleur, il y a de la difficulté du côté de Chelsea depuis le début de la saison.
Il y a Lukaku qui est censé revenir aussi l'an prochain. Ça va être lui, j'imagine.
Ouais, ben Lukaku.
T'as tellement de joueurs, t'as tellement de congestion, comme t'as dit. T'as signé plein de beaux jeunes joueurs qui ont plein de potentiel, c'est formidable. Mais t'as pas de place dans ton effectif pour les essayer. Genre, tu fais des matchs moins importants là, en FA Cup ou peu importe.
D'habitude, mais pas sont éliminés dans la FA Cup.
Mettons l'an prochain. Ouais, tu mets des jeunes joueurs pour les essayer. T'as pas de place pour les essayer, tu dois faire jouer des Pulisic, des Ziyech, du monde que tu mets pas en Premier League. C'est complètement cave. Wesley Fofana, là, qui un des transferts les plus chers cet été de Chelsea, 80 millions. Combien de matchs a joué cette année, savez-vous?
Non.
Quatre. 4 matchs, 80 millions.
Par contre, c'est, ben, il s'est blessé. Là.
Il s'est blessé.
OK, là, mais 4 matchs, tabaslac. En tout cas.
Puis, écoute, on a un peu parlé de la longueur des contrats de 8 ans et demi. Là. Excuse-moi, si t'es beau jeune, là, que tu signes à des contrats de 8 ans et demi, à des prix fous, flop. C'est parce qu'il va en avoir un ou deux ou trois qui vont flopper dans cette classe-là. Tu fais quoi? T'es pogné avec.
C'est ça, 100% vrai. Ouais. J'allais dire du côté de Modric. Modric, 8 ans. J'allais dire Modric, oui, Modric, c'est un bel espoir. Est-ce qu'il vaut ce prix-là déjà à ce stade-là?
Ben, moi, écoute. Oui.
Tu penses qu'il vaut 5 millions?
Ben, écoute, il vaut ce prix. L'Arsenal était prêt à payer 95.
Ouais. Vrai, hein? Un Chelsea a volé ça à Arsenal. On en parlait. T'en parlais à un moment donné que Modric irait peut-être à Arsenal.
Ben, mm-hmm. Ouais.
Tu es déçu de ça?
Oui et non. Parce que d'un côté, oui, ça prend un milieu, oui, c'est un excellent talent, mais à ce prix-là, je pense que c'est trop cher. Puis même là, quand je voyais les prix monter et tout, j'étais comme, faut pas qu'Arsenal embarque dans une guerre d'enchères pour un joueur comme ça qui tu sais, oui, qui a eu des bons moments avec Shakhtar et tout, qui a été bon en Champions League, qui a un grand talent, qui est jeune, mais je veux dire, il n'y a aucune preuve encore. Là, Shakhtar Donetsk, je ne suis pas dans un gros championnat. Puis oui, en Champions League, ils ont fait une bonne phase de groupe, mais quand même, c'est ça. Je pense que le manque de preuves, c'est ça qui m'a refroidi un peu. Mais sûr que ce gars-là a du talent, mais à 70 millions, ça aurait été bien correct.
Ouais, il y a du talent, c'est sûr. Ben, c'est sûr. Fait que, dans le fond, c'est trop cher. Ouais. Ton prix, ça sera 70. Ouais, c'est ça. Okay.
70.
Mais ouais, tu sais, on a vu un court échantillon, mais il est rapide. Il a clairement du talent. Puis ça se pourrait qu'il soit utile à Chelsea, mais comme je l'ai dit, ils n'ont pas beaucoup de place pour développer ces joueurs-là. Fait que, puisque j'aime bien m'enrager après Chelsea, on va revisiter, OK, tous les transferts ensemble. Donc, on a parlé de Modric, 100 millions. Badiachil, 38 millions en provenance de Monaco en défense centrale. Encore là, tu as Fofana, tu as Koulibaly, tu en as d'autres que j'oublie, mais est-ce que tu as de la place pour développer Badiachil?
Ben, honnêtement, ça, c'est un bon transfert parce que Koulibaly, depuis des années, il semble être très, très prompt aux blessures. Fait que tu as besoin de profondeur. Ça, c'est un bon transfert.
Ouais, OK, peut-être. Oui, je suis d'accord avec toi. Ensuite, Madueke, qu'on en a parlé tantôt. Ouais, lui, je pense qu'il y a un autre qui n'aura pas de place dans l'alignement, qu'on ne va pas arriver à développer. Ouais. André Santos a juste 18 ans, puis je ne pense pas qu'il arrive tout de suite. Mais lui aussi, là, ça va être pour le futur. J'imagine, lui, dans peut-être 2-3 ans, plus qu'on va essayer de le.
Oui, je pense qu'il finit la saison au Brésil, je ne me trompe pas.
Oui, c'est ça. Fait que, mais encore là, pour le moment, il n'y a aucune place pour lui. Il y a David Datro Fofana aussi. Pas de place pour lui. Malo Gusto, qui est très prometteur à Lyon, qui devrait. Je pense que j'ai vu que l'accord serait réglé, mais qui arriverait seulement l'an prochain. Donc, ça fait énormément de joueurs qu'on ne sait pas ce qu'on va faire avec eux. Puis, on vend personne du côté de Chelsea, tu sais. J'ai parlé de Pulisic, de Ziyech, mais Mason Mount aussi, je pense qu'il serait un bon candidat à la vente. Là,
ben, je pense que Ziyech est sur le marché, ce que personne ne veut.
Ouais.
Ouais.
Peut-être.
Mais. Pardon. J'allais dire. Pour Hakim Ziyech, j'ai dit c'est quand même assez surprenant que personne ne le veut après la Coupe du Monde qui le connaît avec le Maroc. Ouais. Ce gars-là, il n'a pas joué beaucoup de matchs. Il n'a pas eu beaucoup de succès depuis son arrivée à Chelsea. Mais après une Coupe du Monde, comme lui et son pays ont connu, pour moi, il mériterait qu'une équipe risque de faire un transfert pour lui. T'sais. Mais en tout cas, bref, guys, j'allais dire, faut passer. Il y a d'autres transferts là, parce qu'il est vrai, on pourrait s'éterniser pendant longtemps sur Chelsea. Là. Mais moi, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Moi, je me demande si c'est fait exprès pour la Ligue des Champions parce qu'ils peuvent plus. Parce qu'il n'y a plus aucun espoir pour la Première Ligue. Honnêtement, je serais très surpris qu'ils se qualifient pour l'Europa League l'an prochain. Là. Vraiment, là. Genre,
mathématiquement, ça se fait encore, mais ouais.
Ça se fait encore. Ben, écoute,
j'aimerais pas mal mieux Liverpool que je te dirais.
Ouais, mais bref, j'allais dire, au niveau de ce qu'elle fait pour la Ligue des Champions, je pense que c'est mort. Mais pour. Mais pour se qualifier pour l'Europa League, écoute, c'est encore possible, mais c'est toute une saga de Chelsea. Puis il reste encore 4 jours hein, en mercato.
Puis c'est ça, il essaie d'être chaud aussi, Moïse Caicedo. Là, Arsenal, oui, a fait une offre. Ce coup-ci, ce qu'on
dit, 60 millions, je pense. Hein?
Oui, 60 millions.
Mm-hmm. Ouais.
C'est un peu cher. Ah, mais...
ça, c'est, je pense que un bon transfert, Caicedo, là, vraiment.
Ouais, Caicedo, c'est un bon transfert pour un club qui a besoin de profondeur en milieu défensif. C'est parfait. Mais
Brighton,
millions, c'est un peu cher.
Ouais, peut-être, ouais, mais Brighton s'est fait dévaliser aussi là, avec Trossard. Ouais.
Mais tu sais, avec la saison qu'il connaît, il fallait s'attendre à un mois de janvier, un mercato de janvier quand même assez perdant pour Brighton. Là. Il allait capitaliser là-dessus, c'est sûr. Puis Trossard, je pense que c'est juste qu'il voulait plus être à Brighton également. Mm-hmm.
Mm-hmm. Fait que bref, fin du segment rage envers Chelsea. On va passer aux autres transferts comme Dou le disait. Bon, le plus gros transfert qui est un transfert libre, mais c'est quand même celui qui a attiré le plus l'attention dans ce mercato, Cristiano Ronaldo à Al Nassr, qui a joué 2 matchs jusqu'à maintenant. Mais en fait, 3, mais il y en a un qui était amical. Ça, c'était tout un match. Là,
quel match, c'était fou!
Match amical contre PSG, 5-4, avec un but de Messi, 2 buts de Ronaldo, un carton rouge dans un match amical. Écoute, c'était peut-être la dernière fois de l'histoire que Ronaldo et Messi jouaient, s'affrontaient en fait, et c'était tout un moment là.
Ouais. Ben, c'est ça, tu sais, si c'est la dernière fois, en tout cas on a été gâtés définitivement. Ouais. Un match amical classique entre les deux, puis c'est pour avoir, c'est un peu la fin d'une époque. Ça.
Ouais. J'aime que tu dises match amical classique puis qu'il y a un carton rouge dans le match.
Ben oui, c'est quand est-ce que tu vois ça?
Exact.
Jamais.
C'est pour ça que le mot classique me fait rire. Mais ouais, voilà. Fait que Ronaldo, 200 millions par saison pendant 5 ans. Fait que jusqu'à ce qu'il ait 41 ans. Écoute, le gars, je pense que on dit Ronaldo est allé là pour l'argent, certainement, mais. Est-ce qu'il y avait d'autres possibilités, d'autres clubs qui le voulaient? Pas sûr de ça. Là.
Ben, en Europe, je pense pas.
Europe, oui.
Je sais que Kansas City s'est passé proche de ce que j'ai sur Twitter.
Ouais, c'est ça. Parle en Europe.
Mais en Europe, je pense pas. Je pense que j'aurais pris toute affaire de ma news, c'est un peu pas détruit, mais ça n'a pas aidé sa réputation. Ouais. Il est rendu vieux, puis son style de jeu, c'est pas un style qui vieillit bien. Donc ça, je pense juste qu'elle a plus son utilité, vraiment. C'est ça.
Il y avait Naples cet été qui était peut-être intéressé, puis ça avait avorté. Mais là, Naples a eu un départ canon, puis il est encore premier de Serie A. Puis t'as Osimhen qui va très bien, fait que Naples a fait, ben non, pas besoin de Ronaldo. Il y a Chelsea aussi qui a eu des rumeurs, mais ça on a vu que je pense que la réputation de Ronaldo, là, que c'est vraiment pas aidé avec ce qui s'est passé à Man U. Puis voilà, Al Nassr, toi, Dou, tu as quelque chose à rajouter sur... Aucun but à date en 2 matchs à Al Nassr?
Ouais. Ben écoute, c'est quelque chose à rajouter. Ben en fait, quand même, je trouve ça assez dommage comme fin de carrière pour Cristiano Ronaldo. J'allais dire, oui, ok, il y a eu ces histoires à Manchester United, mais vous pouvez pas me dire que Cristiano Ronaldo ne pouvait pas aider une équipe d'Europe. Là. Oui, écoute, peut-être qu'il ne pouvait pas aider une équipe d'Europe en étant titulaire, en étant le joueur clé d'une équipe aspirante pour remporter une Ligue des Champions, mais il aurait pu être un remplaçant de luxe puis vraiment aider dans le développement des jeunes joueurs ou des jeunes futurs vedettes de plusieurs équipes européennes. Cristiano Ronaldo, c'est un exemple de travail. C'est un exemple. Oui. De persévérance, son modèle de réussite est tellement extraordinaire que pour moi, je ne peux pas croire qu'il n'aurait pas pu aider aucune équipe. Là. C'est inconcevable. Mais Écoute, je pense que c'est la solution la plus logique là, pour Cristiano Ronaldo. J'allais dire, si tu n'as aucune équipe qui veut toi, puis que tu as une équipe d'Arabie Saoudite qui veut non seulement avoir tes services, mais en plus de ça, tu offres 200 millions de dollars de salaire par an, ben pourquoi pas? T'sais, j'allais dire, ça aurait été fou de Cristiano Ronaldo de dire non, puis de d'avoir peu d'argent, puis de dire j'essaie de vraiment prendre des contrats de un an par-ci par-là dans plusieurs petites équipes d'Europe. Ça aurait été logique pour un joueur de sa trempe. Donc, écoute, je trouve ça assez dommage que la carrière en Europe de Cristiano Ronaldo s'arrête de même, parce que pour moi, c'est quand même le plus grand joueur de l'histoire de la Ligue des Champions. Là, c'est pas rien. C'est assez particulier tout ça. Là.
Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Adou. Je suis certain, c'est clair et net et précis que Ronaldo aurait pu servir une autre très bonne équipe d'Europe en Ligue des Champions. Je pense que c'est question de réputation et question salariale que ça ne s'est pas fait. Je pense qu'il demandait trop, malheureusement. Puis, ça, c'est plate à voir que quelqu'un qui est déjà très bien financièrement demande autant d'argent alors que tout le monde, là, même lui, aurait voulu jouer en Europe. C'est sûr, là, mais bon. Mm-hmm. Voilà. Ouais, tu as quelque chose à dire?
Oui, puis pour Ronaldo, je pense également qu'il ne pouvait pas accepter le fait d'être un joueur de soutien.
Ouais.
On l'a vu à Manu, je pense. C'est
un soutien de luxe, tu sais. Hein? Il n'aurait pas joué un match sur 5. Là.
Mais mettons à Dortmund, tu mets comme remplaçant pour qu'il mentore. Comment il s'appelle, le jeune de 18 ans? Là, oui, ouais, lui ou Adeyemi, tu sais.
Puis tu sais, il aurait été titulaire jusqu'à ce que Allaire arrive, là, aussi, Ronaldo.
C'est ça.
Fait que,
C'est désolé.
Dortmund, c'est un très bon exemple qu'il aurait pu aller là, exact. Fait que, voilà, bon. On souhaite le meilleur à Ronaldo, puis honnêtement, s'il pourrait être à 200 millions par année à Al Nassr, j'espère qu'il va casser la baraque, là, parce que là, zéro but en deux matchs, je m'attendais à mieux.
En même temps, deux matchs.
Deux matchs, c'est pas beaucoup, mais tu sais, il est en Arabie Saoudite. Là,
c'est ça. Ouais. Mm-hmm.
Puis en plus, Cristiano Ronaldo est milliardaire déjà sans même les 200 millions. Fait que,
c'est ça.
Il va juste augmenter son compte en banque, puis c'est tout. Écoute, tant mieux pour lui.
C'est ça qui est plate. Là. Tu aurais pu accepter moins pour jouer en Europe, justement. Bon, rapidement, les autres transferts. On a parlé de Trossard à Arsenal. 30 millions, honnêtement, à très bon prix pour Trossard. Arsenal, Tom. Puis on parlait qu'Arsenal devait aller chercher un autre striker. Pas besoin, man. Nketiah, wow.
Écoute, voilà. Je sais pas si vous aviez écouté le match de dimanche, mais depuis dimanche, j'ai une seule tourne dans la tête, la tourne d'Nketiah. Quel match dimanche contre Man U. Honnêtement, vraiment un des meilleurs matchs d'Arsenal de la saison. Oui, Man U a gardé le score serré jusqu'à la fin, mais ils faisaient manger par Arsenal tout le long de la rencontre. Mm. Ils ont attaqué sans arrêt Man U. Puis Man U n'a pas énormément de chance non plus. Là.
Non.
Ouais, mais oui,
les expected goals, je pense qu'on parle de 0.33, 0.60 que pour Manu.
Alors, ouais, ok. Oui.
Ouais, c'est fou. Hein. Puis, écoute, pour vrai, si je peux rajouter quelque chose, chapeau à Arsenal, là, j'allais dire, tellement bien entraîné. Là, j'allais dire, j'ai l'impression que son plan, officiellement, son plan fonctionne, puis genre, tout le monde arrive, puis écoute. Moi, je le dis depuis son penalty raté, là, Saka, là, genre, Saka est un des meilleurs joueurs au monde.
C'est un homme en mission.
Il est sensationnel, Saka, là, dans une autre catégorie. Là. Pour vrai, pour moi il va bientôt rejoindre le top 10 des meilleurs joueurs au monde. Je ne sais pas s'il est rendu là encore, mais s'il n'est pas là, il frôle, là, pour moi.
Écoute, tout. J'aime tellement ça. Écoutez ce que tu dis. Oh, c'est de la musique dans mes oreilles.
On disait qu'Arsenal n'avait pas de joueur d'élite, mais Saka est clairement là-dedans. Là. Puis je pense qu'on pourrait bientôt en rajouter d'autres.
Odegaard, facilement.
Odegaard, wow.
C'est dans le top 3 des milieux de la Premier League cette année. Il y a peut-être De Bruyne qui dépasse. That's it.
Ouais.
Mais ouais, Degard, je suis très d'accord. Mais attends, tu disais tantôt que les expected goals étaient en faveur de Arsenal, hein?
Ou, ouais, ouais.
Et non pas de Manu.
Ok, bah, je pense
que... J'aime Manu is back, mais je ne parlais pas du bon club.
Ouais, man. Mais écoute, quand même, on peut parler rapidement de Manu, là. Aussi, là. Genre, Manu depuis...
Ouais, ben oui, Manu est...
Ouais, puis Rashford, là, depuis quelques temps, il est dans une séquence folle.
Ah, il est incroyable.
Il marque beaucoup de buts, là, puis j'ai vraiment l'impression que Marcus Rashford, depuis quelques temps, commence à vraiment tranquillement atteindre le potentiel qu'on attendait de lui depuis 6 ans au moins, là, 6-7 ans, là, qu'on attendait à ce que Rashford explose de la sorte. Là. Fait que ça fait du bien de voir Marcus Rashford dominer en première ligue. Là.
Mm-hmm. Mais quand même, je pense que Manu qui a eu la plus courte title chase de l'histoire, qui a duré 48 heures avant sa victoire contre City et le nul contre Palace et la défaite contre Arsenal. Là, mm-hmm. Manu qui est présentement à 11 points avec un match de plus qu'Arsenal. Je pense qu'on peut oublier le titre du côté de Manu.
Effectivement, même si on l'a dit, je pense que l'affaire Ronaldo, le fait que ça soit derrière eux, ça les aide beaucoup. Mm-hmm. Rashford va très bien. Christian Eriksen, niveau positif, ça va bien. Fernandez joue quand même bien. Garnacho qui va bien également. Donc, je pense que offensivement, ça se passe bien. Ten Hag a été capable d'implanter son système dans cette équipe-là.
Puis, défensivement, Lisandro Martinez
aussi, ça va. Ouais, c'est Lisandro Martinez, ça va très bien également aussi. Mm-hmm. Fait que, ouais, Manu, je pense qu'il fait sourire un peu Sir Alex Ferguson. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, ça. Mm-hmm. Mais voilà. Bon, pour revenir rapidement au transfert, Cody Gakpo, Liverpool, 42 millions. À date, ça va pas trop bien, Gakpo, à Liverpool, mm-hmm. mais je pense quand même que 42 millions pour Gakpo, ça va être un bon transfert, là. Honnêtement, là, je pense qu'on a vu ce qu'il a à faire en Coupe du Monde. C'est sûr que là, il n'a pas été capable de marquer encore, mais j'ai vu quand même de belles choses à certains moments, mais je pense que ça pourrait donner un bon fit là, à Liverpool. 42 millions, je pense, c'est un bon prix. D'où tu es d'accord avec ça? Je te voyais acquiescer.
Ouais, ben je disais que pour Gakpo, je trouve que c'est un transfert qui est très équitable. C'est normal un peu qu'il y ait un peu de difficulté. Il faut dire, tu as l'habitude quand tu arrives dans un transfert en hiver, c'est plus difficile le temps d'adaptation. T'es vraiment passé d'un système à un autre. T'as pas eu beaucoup de temps pour t'acclimater à ta nouvelle équipe. Donc, c'est normal que ça prenne un peu de temps pour Cody Gakpo. Moi, j'ai plus hâte d'avoir Cody Gakpo l'an prochain. On est au début de la saison 2023-2024. Là, on va vraiment avoir un plus grand aperçu de son talent du côté Liverpool. Puis Liverpool n'ont plus pas dans une excellente séquence.
Oui, puis Luis Diaz et Jota qui sont blessés, même, ça va être pas à l'attaque.
Oui, c'est ça. Puis que, bon, Darwin Núñez va un peu mieux.
Ouais.
Va un peu mieux, mais ça reste...
Mais encore une fois, le gros défi de Núñez, c'est la finition. Hein,
ouais. Ah oui.
C'est beaucoup de difficultés à finir les actions. Là-dessus, le momentum de Liverpool à chaque fois.
Oui, puis écoute, Mo Salah aussi, il rate plusieurs chances cette saison. Là. Moi, on s'en parlait. La dernière statistique qui était sortie, oui, tu as Darwin Núñez qui a plus d'occasions en première ligue, mais Mohamed Salah est deuxième. Là, il n'est pas très loin de Núñez. Donc, ces deux-là doivent se réveiller pour permettre à Liverpool de remporter plus de matchs là, parce qu'en ce moment, ça fait dur un peu.
Puis Mo Salah. Ah, vas-y, Tom.
Mais tu sais, vous êtes fan des Reds, que vous pouvez sûrement répondre à cette question-là plus que moi. Mais est-ce que dans le fond, Mané, c'était le joueur indispensable?
Non, je pense pas. Je pense juste que Mané était très important. C'est sûr que sa perte a fait mal. Mais je pense que Luis Diaz là, était très bon sur la même aile que Mané, puis avec Jota, puis avec Núñez, s'il faisait un meilleur travail. Je pense que Liverpool aurait très bien pu s'en tirer. Je pense qu'on a fait des bons achats quand même du côté de Liverpool. Firmino aussi, qui est blessé et qui va très bien cette saison, qui va sûrement partir cet été d'ailleurs. Mm-hmm. Mais ouais, je pense pas qu'il était indispensable. Je pense juste que Núñez joue pas à ce qu'on s'attendait de lui. Je pense que les blessures font mal. Puis je pense que Mo Salah n'est pas lui-même non plus. Là. Oui, statistiquement, c'est pas c'est pas terrible comme pour Nunez, par exemple. Mais j'ai l'impression que cette saison, Salah, il n'y a pas le dynamisme, il n'y a pas le feu, il n'y a pas l'intensité, il n'y a pas l'étincelle qu'il y avait qui faisait en sorte qu'il était vraiment dans les meilleurs joueurs au monde dans les dernières saisons. Il n'y a pas ça cette saison, j'ai l'impression. Puis je pense que c'est ça vraiment qui manque à Liverpool.
Ouais, puis si je peux rajouter quelque chose aussi, tu sais, je pense que Liv va être d'accord avec moi. On sentait que le milieu de terrain devait. Ben, en fait, que Liverpool devait aller chercher des nouveaux joueurs au milieu de terrain parce que. Tu vois, Jordan Henderson commence un peu à vieillir. T'as Thiago Alcantara aussi, que des fois il est bon, des fois il est blessé aussi, des fois il passe à côté de son match. Fabinho est un très bon joueur, mais a besoin d'aide. Ouais. Je pense que c'est vraiment là que ça s'est cassé du côté de Liverpool. C'est vraiment au milieu de terrain où ils ont vraiment besoin d'aller chercher du 109, j'allais dire. On en parlait souvent, là, mais Jude Bellingham du côté de Liverpool, ça réglerait beaucoup de problèmes que Liverpool a au milieu de terrain.
Encore sur la piste, oui.
Ça aiderait beaucoup. Écoute, en ce moment, ben, écoute, la blessure de Van Dijk qui arrive au pire moment. Là, on en parlait, moi et Ali, en privé. Là, j'allais dire, il y a deux ans, là, en 2021, là, quand Van Dijk était blessé, puis Matip également, là, tu voyais la différence à quel point ça faisait mal à Liverpool de ne pas avoir de défense. Parce que là, tu as Alexander Arnold on connaît ses lacunes défensives, mais en plus, si tu n'as pas quelqu'un pour venir couvrir en arrière, tu vois encore à quel point c'est encore plus difficile pour lui. Dans sa zone. Là, t'as Robertson, que c'est. Ça va, mais tu sais.
Robertson, je pense que ça va, tu sais.
Ça pourrait être mieux, mais c'est pas.
Arnold, c'est désastreux défensivement.
Ouais. Alexander Arnold.
Ah, ben, ça a toujours été comme ça.
Ouais. Ben, il me semble que ça ressort pas mal plus cette année, là.
Ouais.
Puis l'an passé aussi, quand même.
Ouais, l'an passé aussi. Mais c'est ça, avec Van Dijk qui est blessé, puis avec un milieu de terrain un peu vieillissant, je pense que c'est vraiment plus ça le problème. Oui, Sadio Mané était plus qu'important, même l'attaque de Liverpool, mais vraiment de voir Luis Diaz qui s'est blessé, Diogo Jota aussi qui est blessé depuis un bout, ça aussi, là, ça fait mal à l'attaque de Liverpool. Ouais. Firmino aussi, Roberto Firmino qui
avait trois gros blessés.
Avait tout un début de saison il y a deux mois. Là, ça, il était excellent là, juste avant la Coupe du Monde, là, puis il se blesse. Puis là, t'as Darwin Nunez qui a un peu de la difficulté depuis son arrivée à Liverpool. Puis t'as Salah qui est l'ombre de lui-même. Donc, il y a plusieurs points d'interrogation du côté de Liverpool. Mais regarde, écoute, il y a plusieurs raisons qui pourraient forcer des fans à Liverpool à paniquer. Mais tu peux pas paniquer, man. Je veux dire, il y a huit ans, ce club-là allait nulle part. Là. Donc, en ce moment, si tu vois ce club-là sur le papier, c'est pas si pire que ça, loin de là. C'est juste qu'il ça arrive d'avoir des passages à vide.
Oui, mais l'effectif de Liverpool, je suis certain qu'il est encore dans les meilleurs de Premier League. Ça se peut juste que ça soit une saison, que ça soit pas une bonne saison pour Liverpool avec les blessés, avec plein de circonstances, mais ils peuvent très bien revenir l'an prochain en force. On va voir, puis l'Europa League est encore possible, donc on va voir pour ça. Et puis on parlait du milieu Liverpool, Azzedine Unai, révélation pour le Maroc en Coupe du Monde, mais lui il irait du côté de Marseille pour seulement 10 millions, man. Fait que je me dis pourquoi Liverpool n'est pas allé le chercher, lui ça aurait été excellent pour son milieu de terrain, mais non. Donc voilà, puis un dernier transfert qu'il faut qu'on parle, c'est Memphis Depay à l'Atlético, 3 millions seulement. Ça pour moi c'est pas cher du tout, là. Donc, Depay qui a commencé à l'Atlético dans les derniers jours, parlez-moi de ce transfert-là, très peu dispendieux.
Ben écoute, ça faisait un an et demi que Barça a essayé de s'en débarrasser. Ça a passé proche, il y avait eu des discussions avec la Juve cet été.
Ouais, c'est vrai.
Qui sont rendus très loin. Puis écoute, je pense que j'en ai parlé avec Dou. Depay au Barça, je pense qu'il était juste pas dans le bon rôle. Évidemment, quand il a été signé, c'était comme backup, comme deuxième option en tant que striker. Par contre, avec Aguero, ben, on sait ce qui s'est passé avec lui, Franck Cartier et tout. Donc, tu prends sa retraite. Il a été forcé de prendre le rôle d'option première. Ça n'a pas trop marché. Puis, ben, c'est ça, son contrat se termine cet été, donc évidemment, Barça n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre en négociation. Puis déjà qu'ils ont réussi à avoir Carrasco, je ne me trompe pas, En échange, en plus de 3 millions.
Ah, il y a eu Carrasco, j'ai pas vu ça.
C'est non, moi non plus. Ben, il me semble que j'ai vu ça.
Ah,
oh,
ouais.
Ça, peut-être que c'est une rumeur aussi. Mais, ouais, il me semble que c'est un swap. Mais je suis pas sûr. Je vais aller revérifier. Mais en tout cas, sur du côté de Tepay, ça va lui permettre d'avoir plus de temps de jeu à l'Atlético. Tant mieux pour lui. Mm. C'est pas un mauvais joueur. Seulement, il va avoir 29 ans dans 2 semaines, 2-3 semaines. Donc, il reste encore du bon soccer, comme on a vu à la Coupe du Monde.
C'est une option d'achat qu'ils ont sur Carrasco.
OK.
Ouais. Fait que dans le fond, si je comprends bien, c'est que s'ils veulent lever l'option de l'acheter, ils peuvent, mais il faut qu'ils payent un prix à l'Atlético.
OK.
Fait que dans le fond, il n'est pas encore là, mais c'est une option d'achat. OK, j'avais pas su ça. OK, voilà. Donc, c'est pas mal ce qui. À moins que vous aviez un autre transfert que vous voulez aborder, mais je pense qu'on a fait le tour. Là.
Non, mais écoute, juste pour dire que le Barça. Mais moi, en fait, je voulais parler du Barça et du Real parce qu'il y a quand même un classico récemment, là.
Oui, c'est vrai. Ben, avant hier, je pense. Oui,
ouais,
hier.
C'est ça. Puis,
c'était un
derby madrilène. Quel match aussi du côté de Madrid, l'Atlético Madrid qui
met 1-0,
puis que finalement, vers la fin du temps réglementaire, là, vers la fin de la deuxième mi-temps, Rodrigo encore en mode héros qui marque un but sensationnel pour régaler la marque et amener les deux équipes en prolongation. Puis encore une fois, Karim Benzema.
Ah, le but de Rodrigo,
Rodrigo qui marque un but extraordinaire pour créer l'égalité. Après ça, Benzema qui marque encore une fois en prolongation. Puis il est devant au Real. Et par la suite, Vinicius qui vient clouer le cercueil de l'Atlético Madrid en marquant le but décisif, le but du break pour offrir cette victoire au Real Madrid, une victoire qui est vraiment importante parce que Real Madrid, depuis le retour de la Coupe du Monde, ça va pas très bien de leur côté. Beaucoup de fatigue, un manque de rythme de plusieurs joueurs, non seulement Benzema aussi, mais il y a eu d'autres joueurs qui ont eu un peu de difficultés en revenant de la Coupe du Monde. Également, dans le Classico, l'absence, en fait, non seulement l'absence de Tchouaméni, mais surtout, j'ai ressenti l'absence de Casemiro, à quel point ça faisait mal de ne pas avoir un milieu défensif du côté du Real Madrid.
Camavinga qui ne joue pas beaucoup non plus.
Non, mais Camavinga était titulaire pour le Real dans le Clasico contre le Barça en Supercoupe. C'était loin d'être convaincant dans son cas, mais pour vrai, l'absence de Casemiro, ça fait mal.
Valverde, ça va moins bien aussi.
Valverde aussi, c'est parce qu'il ne joue pas dans sa position. J'avais dit, le Real Madrid, dans la formation de Carlo Ancelotti, il utilise à l'aile droite.
Ouais.
C'est ce qui est assez particulier. Au lieu d'utiliser au milieu de terrain, il compte beaucoup sur leur duo sensationnel en Modric et Toni Kroos, qui est le duo par excellence du Real Madrid depuis presque 10 dernières années. Ouais. Puis en plus, avec Tchouaméni qui a été merveilleux, non seulement à l'équipe de France, mais depuis son arrivée au Real Madrid, en remplacement de Casemiro. Casemiro, en passant, on n'a pas parlé, mais qui
est excellent
du côté de Manchester United. Ah, ouais. Mais en tout cas, j'ai ressenti...
Ah, vraiment stabilisé le milieu de
Madrid.
C'est ça, mais en ce moment, en tout cas, du côté du Real Madrid, ne pas avoir Tchouaméni dans la rencontre contre l'FC Barcelone, ça a tellement fait du mal. Le Barça a complètement mangé le Real au milieu de terrain avec Gavi puis Pedri. Surtout Gavi qui a été encore une fois excellent au milieu de terrain, seulement à 18 ans, en offrant des aussi bonnes performances à ce jeune âge-là. C'est encourageant, puis c'est plus qu'encourageant même du côté de l'FC Barcelone qui peut compter sur un duo espagnol qui peut amener cette équipe-là à aller très loin dans les prochaines années. Là.
Vraiment, tout à fait. Barça, vraiment, là, je pense que on naviguait un peu dans l'incertitude dans les dernières années, mais là, on a vraiment des jeunes qui sont très intéressants. On a Lewandowski qui va très bien. Et on a Araujo également, grosse pièce, maîtresse en défense. Je pense que non seulement on pourrait très bien gagner la Liga cette année, mais le futur est prometteur aussi pour le Barça. Donc, voilà. Tour d'horizon maintenant, rapide, des 5, du top 5 européens. commencer par la Premier League. On en a parlé pas mal tantôt, mais j'ai deux questions pour vous.
Yes.
Premièrement, est-ce que Arsenal remporte la Premier League? Je sais que Dou, tu étais plutôt incertain la dernière fois. Deuxième question, est-ce que Newcastle va rester en Champions League parce que présentement, ils sont troisième? Mm-hmm. Moi, je vais répondre rapidement. Arsenal va gagner la Premier League. Je suis Tom là-dessus. Ils sont juste très bons à avoir joué. On en a parlé tantôt. Ils ont très bien fait contre Man U. Ils ont perdu aujourd'hui contre City, mais ce n'était pas en Premier League.
Ouais.
Donc, ouais, je pense qu'Arsenal joue même tellement bien.
Je ne sais pas si vous avez écouté le match, mais c'était le gap s'est resserré beaucoup entre les deux équipes. Arsenal était presque au niveau City. Ça va être beau à voir dans les deux prochains matchs.
Écoute, ils ont cinq points d'avance sur City, puis ils ont un match en main. Un match en main. Fait qu'ils ont techniquement 8 points à moins qu'ils ne gagnent pas leur match en main. Là. Fait que, écoute, ils ont une bonne avance quand même. Puis Newcastle, moi, je pense qu'ils vont décélérer un peu puis qu'ils vont se faire rattraper par peut-être Tottenham ou quelqu'un d'autre pour la Ligue des champions. Mais en même temps, ils vont très bien puis ils n'ont pas un mauvais effectif Newcastle. Mais voilà, Tom, réponds à mes deux questions. Est-ce qu'Arsenal gagne la Ligue et est-ce que Newcastle reste en Champions League?
Écoute, ben, la première... Vous connaissez déjà ma réponse, oui. Évidemment. J'ai perdu un peu la foi en début d'année, mais là, de ce que j'ai vu, c'est Arteta Ball est tout simplement parfait. Ça fonctionne, c'est une équipe unie. La chimie est au max. J'en parlais avec un de mes meilleurs amis qui est aussi fan d'Arsenal. Puis, écoute, on n'en revenait pas. Je pense qu'on est officiellement rendu un gros club. Dans toute ma vie de fan d'Arsenal depuis 2016-2017, j'ai pas vécu ça. C'est fun personnellement, mais oui, je pense que Arsenal va. J'y vois pas ralentir. Personnellement, je pense que à part contre City, je pense pas qu'ils vont tromper de points pour le reste de la saison. Puis peut-être à Anfield. Le reste,
Anfield en ce moment, c'est pas trop fort. Là.
Mais écoute, on sait jamais. Du côté de Newcastle, je pense pas qu'ils vont finir troisième, mais je pense qu'ils vont finir à Champions League. Tottenham, c'est la déroute. Présentement, ça va pas.
Ben, c'est la déroute, mais ils sont quand même cinquième, tu sais.
Ben, ils sont cinquième, mais tu les vois jouer. Il y a des matchs contre des équipes nettement inférieures qu'eux, que
c'est
proche de la perdre. Puis quand ils jouent contre top 6, ils sont pas de niveau. Ouais. Bon, vous allez dire, bon, c'est un fan d'Arsenal qui tient normalement. Mais écoute, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je pense qu'ils n'ont aucune victoire ou qu'ils ont seulement un point face à des équipes du top 6 depuis le début de la saison. Puis leur calendrier est quand même assez difficile pour le reste de la saison. Je pense pas qu'ils vont rattraper Brighton.
Honnêtement, juste de finir sur Tottenham, qu'est-ce que ferait Tottenham sans Harry Kane, man?
Honnêtement, ce gars-là ne mérite pas Tottenham. Ne mérite pas Harry Kane, je veux dire.
Tottenham ne mérite pas Harry Kane. Mais vas-y, ouais, Brighton.
Mais ouais, Brighton, écoute, on perd un gros morceau en transfert. S'ils perdent Caicedo, que d'ailleurs, Fab a sorti aujourd'hui qu'il n'allait pas s'entraîner samedi. En fait, qu'il allait faire la grève pour quitter le club. Là, écoute, si tu perds deux gros morceaux, c'est certain qu'ils vont descendre. Si Liverpool se réveille, ont des chances de faire top 4, mais encore, il y a beaucoup de chemin à rattraper.
Ouais.
Je pense pas qu'une équipe pourrait rattraper Newcastle.
C'est vrai que la plupart des équipes sont très loin. Et toi, Dou, les deux questions?
Bah écoute, pour répondre à la première question, moi, écoute, je pense que je vais vous suivre. Je pense qu'Arsenal, si la tendance se maintient, va finir par apporter une première ligue depuis 2004. Bravo. Écoute, Tom, bravo de garder la foi à cette équipe-là. C'est une belle équipe, en tout cas, qui est excellente, puis surtout qui prouve qui prouve aux nombreux détracteurs. Puis,
que bon, tu étais au début de la saison.
Ouais, donc ouais, hein. Je m'inclus. Je m'inclus dans cette liste-là. De nous prouver le contraire. Puis en ce moment, même avec l'absence de Gabriel Jesus qui avait été excellent depuis le début de la saison, ben, ouais. C'est capable de remporter des matchs, surtout des matchs importants. Donc, mm-hmm. J'ai hâte. Moi, je pense que Arsenal va remporter la Ligue des Champions. Pas la Ligue des Champions, pardon, mais la Premier League. Mais ça va se remporter avec des Champions.
Écoute, c'est l'an prochain, la LDC.
Bon, une étape à la fois.
Finis ton point.
Ouais, puis par rapport à Newcastle, moi, je pense que j'ai du même avec Tom là-dessus. Je pense pas que Newcastle va terminer troisième, mais je pense qu'ils peuvent terminer top 5. Fait,
top 4.
C'est top 4 ou top 5? Parce qu'en Premier League,
c'est top 4.
Ah, ok, c'est ça, merci.
Je vois que ouais, vous avez probablement raison parce que à part Tottenham, il n'y a pas grand monde de proche. Là.
Mais je pense que c'est la dernière saison avec le format actuel de top 4 parce qu'en 2024-2025, on tombe avec le nouveau format. Ouais.
C'est ça. Ouais, ça va être beaucoup d'équipes.
Ouais, c'est ça, bref. Là-dessus, je te laisse. Newcastle va terminer quatrième, je pense.
Ouais, mais plus en regardant le classement, je pense que je suis d'accord avec vous finalement. Mais Liga maintenant, là, bon, Real Barça, c'est pas mal ça la question. Je vous l'avais demandé il y a plusieurs épisodes à GBR, mais là, on est plusieurs mois plus tard. Barça est encore en avance, 3 points d'écart, même nombre de matchs joués. Le Real a eu de la misère après la Coupe du Monde, mais là, ils ont une grosse victoire contre l'Atlético. Est-ce que ça va.
Mais c'est en Copa del Rey.
Ouais, je sais que c'est encore pas délire, mais quand même, ça aide leur momentum. Est-ce que ça va changer quelque chose pour eux? Je sais pas, mais moi, j'ai un feeling pour Barça, qui sont en avance en ce moment. C'est pas une grosse avance, mais j'aime ce que je vois. On a parlé de Gavi, Pedri tantôt, d'où. Lewandowski, meilleur buteur de Liga aussi. Ça va bien de son côté quand même. Auro qui est revenu au jeu. Je pense Franck Kessié. Je ne comprends pas pourquoi ils ne font pas plus jouer, mais bon, c'est moi. Je pense que j'aime bien ce que je vois à côté Barça. Je vais rester avec le Barça de mon côté. Mm-hmm. D'où Barça ou Real pour la Ligue 1?
C'est une excellente question. Je pense que je vais aller avec le Barça parce que le Real Madrid, je sens qu'ils vont beaucoup se concentrer sur la Ligue des Champions. Puis le Barça n'a pas cette. Avec l'Europa League. A pas cette crainte-là de trop dépenser son énergie sur une compétition plus que l'autre. Puis en ce moment, avec la forme du Real Madrid, puis écoute, je pense pas que la Real Sociedad puis l'Atlético Madrid vont vraiment compétitionner cette saison avec le Real ou le Barça. Je pense que le Barça a des chances de remporter la Liga. Mais écoute, qu'est-ce qui est quand même assez génial cette saison, c'est que vraiment, le Classico va faire toute une différence parce que l'an passé, le Barça avait battu le Real 4-0 du côté de Bernabéu au El Classico, mais le Real avait comme 15 points d'avance sur le Barça, là, donc ce match-là ne signifiait absolument rien. Donc, là, ça va être vraiment génial de voir un Classico qui avec une valeur, surtout avec une importance comme cette saison pour les deux équipes parce que j'ai vraiment l'impression que celui qui va remporter le Classico va remporter la Liga.
Mm-hmm. Ouais, vraiment.
Moi, je pense que Barça peut maintenir. Le Real, ça a été une longue saison pour un club qui est quand même vieillissant. Ça fait depuis la saison qu'on dit. Mais l'impact de la Coupe du Monde, je pense que ça a pas aidé. Tim Modric, qui s'est quand même rendu loin en Coupe du Monde, a joué beaucoup. Même chose, peut-être, en fait, pour la part de l'équipe. Puis l'an dernier aussi, t'as gagné la Liga, tu t'es rendu en Ligue des Champions. C'est quand même demandant pour une équipe qui a plupart de leurs joueurs sont dans leur trentaine. Donc c'est quand même assez c'est quand même demandant. Puis on s'attendait à un essoufflement.
Ben attends, tu sais, je peux rajouter quelque chose par rapport à Real Madrid. Oui, c'est une équipe qui a quelques joueurs qui sont vieillissants, mais c'est pas la majorité des joueurs du Real qui sont vieillissants. T'as Vinicius, t'as Rodrigo, t'as Valverde, t'as Camavinga, t'as Tchouaméni, t'as Ferland Mendy, t'as...
Comment ça s'appelle? Non, mais je parle au
niveau des titulaires. T'as Thibaut Courtois qui a 30 ans, mais ça garde un but, donc il peut encore durer pour plusieurs saisons. Puis même ta défense, elle est pas si vieille que ça. Là. Carvajal, qui a l'air vieux déjà, a seulement 29 ans.
Impossible.
Je te dis. Ouais.
31.
Rudiger n'est pas si vieux non plus, je pense.
Rudiger non plus n'est pas si vieux. Puis même chose côté d'Alaba qui a 30 ans. Donc, ouais. Tu sais, c'est une équipe non,
c'est,
qui.
Mais écoute, c'est des joueurs que tu as l'impression que ça fait une éternité qu'ils jouent du côté d'Alaba. J'étais sûr qu'il n'y avait pas en bas de 35 ans.
Ouais, c'est ça. Mais tu sais.
C'est Modric, Kroos et Benzema là, qui vont être à remplacer, que ça va faire mal. Là.
Exactement. Mm-hmm.
Mais voilà, fait que dans le fond, nous trois, on dit Barça, on s'entend là-dessus, puis on s'entend tous sur Arsenal aussi, fait que c'est beau à voir, les gars, yes sir. C'est ça, je voulais, fait que là, on parlait du Classico, 19 mars, date à mettre au calendrier, le Classico, 19 mars, sûr que j'écoute ça. Et puis, avant qu'on passe à une autre ligue, je voulais parler de Elche qu'on salue, 20e position.
Aucune victoire, c'est raison.
6 points en 18 matchs, aucune victoire. Salut Elche, c'est la relégation, je suis désolé pour toi. Bon, ensuite, Serie A, man, la Juventus qui a perdu 15 points, les gars, mm-hmm. qui était deuxième en Serie A, perd 15 mm-hmm. points, se retrouve au 11e rang avec 23 points. Très, très longue place en compétition, que ce soit à la Conference League, là, même ça.
J'entends dire que Chelsea cherche à acheter ces 15 points-là.
Non, Chelsea, ils vont les perdre à cause du fair play financier, man.
c'est
mais genre dans 3-4 ans, là. Mais ouais, fait que ça, c'est à cause... Attends, c'était quoi? Pourquoi déjà qu'ils ont perdu 15 points?
Ouais, c'est à cause de fraude. Ben, pas de fraude fiscale, mais sur les prix de transfert. Avec
les salaires durant la COVID, c'est ça?
Ouais, aussi. Écoute, c'est une affaire plus... plus de manière comptable. Puis mon compte en banque peut confirmer que c'est pas mon domaine d'expertise. mais c'est quand même une grosse nouvelle. Plusieurs suspensions également pour Pavel Nedved, entre autres. Ouais. Le directeur sportif de Tottenham qui était à la Juve dans le temps et suspendu pour deux ans et demi. Ouais. donc ça. Des grosses répercussions. Puis, 15 points au classement, ça fait mal.
Ouais, mais écoute, en même temps, Juventus, c'est pas la première fois qu'il vit une situation, cette équipe-là vit une situation de la sorte. Ils ont été relégués de Serie A en 2006 pour un scandale de match truqué. Donc, c'est pas la première fois qu'ils font face à une situation de controverse puis qu'ils perdent gros, soit au classement général ou. Ou limite la relégation, mais ça, la relégation, c'est l'extrême. Mais même là, perdre 15 points au classement, te retrouver de la 3e position à la 11e position, ça fait mal.
Ça fait en plus que Juventus connaissait pas une si bonne saison que ça depuis le début, ils ont mal commencé en Serie A et en Champions League. Donc,
il s'était rétabli, là, il était rendu dans bonne position pour rester.
Ouais, il s'était rétabli, mais. Tu rajoutes à ça un mauvais départ et une piètre performance en Ligue des Champions. C'est vraiment une saison oubliée.
Mais de toute façon, Naples est tout seul. C'est
pas compliqué. Ouais, Naples, 50 points, vont clairement remporter le titre. C'est pas là la question. Naples qui est trop fort en ce moment. La question, vraiment, là, il y a une grosse séparation côté en Serie A. De la position 2 à la position 6, il y a 3 points d'écart. T'sais, Atalanta est à 35 points en 6e. AC Milan, 38 points en 2e. Puis après ça, c'est 7 points d'écart entre la 6e et la 7e place. Udinese qui est à 28 points. Fait que ça va être vraiment intéressant de voir. Mais tout est à jouer là, pour la Conference League, l'Europa League, la Champions League. Ça peut aller à n'importe qui. Ça va être vraiment, à part pour la première position, ça va être vraiment un suspens jusqu'à la fin, j'ai l'impression, en Serie A. Voilà. Bundesliga maintenant, les gars. À moins que vous aviez autre chose à ajouter sur la Serie A, mais c'est good.
Non, ça fait le tour.
Good. Fait que Bundesliga, honnêtement, le Bayern n'est vraiment pas sûr là, en première position. Il est 36 points, un point d'écart avec Leipzig, ont un match d'avance, mais c'est pas joué pour le Bayern. C'est pas une aussi grosse domination que dans les autres années. Faut dire que le Bayern, en fait, la Bundesliga au complet, ça a pris un mois avant qu'on recommence après la Coupe du Monde. T'sais, toutes les autres ligues ont commencé fin décembre ou début janvier, mais eux, ils ont commencé seulement la semaine passée, je pense.
Ouais, mais on est déjà, on est à peu près au même point du côté de.
Oui, ouais, parce que ça commence plus tôt.
La Bundesliga, ben on joue ça, puis on joue deux matchs à moins également, puis on est à mi-saison.
Ouais, c'est ça, ouais, t'as raison. Mais ouais, c'est ça. Fait qu'une plus grosse pause, là. Fait qu'il n'y a pas d'excuse de fatigue, là. Ça fait, ils ont eu un mois pour récupérer de la Coupe du Monde. Mm-hmm. Mais ouais, c'est ça. Le Bayern, vraiment pas aussi sûr. Est-ce que Nagelsmann, vous en, je sais pas comment vous posez ça, mais est-ce que vous êtes content ou est-ce que vous êtes satisfait de Nagelsmann justement à la fête du Barça, du Bayern, pardon?
Ben, je vais t'avouer que la Bundesliga, c'est pas le champion que je suis le plus, honnêtement. Mais l'an dernier, il a quand même connu une bonne saison pour le Bayern. Il avait gagné avec 6 points d'avance sur Dortmund. Puis c'est quand même, si je ne me trompe pas, c'était rendu loin en Ligue des Champions, right?
Je pense que oui, je ne sais plus trop quel stade, là, mais je pense que tu as
raison. Rendu loin en Ligue des Champions, non? Ils avaient perdu tôt, non? Ils n'avaient pas perdu.
Peut-être, je mets.
Ils n'avaient pas perdu encore.
Ça fait longtemps. Excusez.
Attends, le département de recherche est là-dessus, man.
Vas-y.
Je vous dis ça tout de suite.
Mais ouais, moi, personnellement, je veux dire mon opinion sur Bayern. Je pense qu'ils ont un effectif supérieur à n'importe qui en Bundesliga, puis qu'ils devraient s'en tirer avec une bonne avance pour le titre. Fait que je suis avec la performance, justement, c'est ça. Si tu
on perd encore
contre le Real.
Oui,
c'est exactement
Expo. Ça. Ouais, c'est ça. Avec la performance en Ligue des Champions l'an passé, avec là, que c'est très serré, qu'ils vont peut-être même pas gagner la Bundesliga pour une première fois depuis je sais pas combien de temps. C'est Nagelsmann, je suis pas convaincu, moi, au Bayern. C'est sûr que là, ils ont perdu Lewandowski, mais quand même.
Tu parles de Lewandowski, puis l'effectif, encore une fois, c'est un peu le même problème que le Real.
Il n'y a pas de striker.
C'est ça, il n'y a pas de striker. Tu perds Neuer pour la saison. Puis,
mais t'as Yann Sommer. T'as Yann Sommer qu'ils vont aller chercher, qui est un bon remplacement, je pense.
Oui, c'est un bon remplaçant, mais c'est pas Neuer, tu vois.
Pas Neuer, mais tu restes le Bayern Munich, là. T'es censé gagner avec pas mal de points d'avance, tant qu'à moi, là.
Exactement. Puis en plus
en même temps, je veux dire, si on peut avoir plus de parité en Bundesliga, c'est pas moi qui vais chercher.
Ah, je suis pas contre.
Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il se fait 10 ans d'affilée que Bayern gagne. Il serait temps de passer à d'autres choses.
Ils sont pas à 11, même?
Ouais, de 2011, je pense.
C'est ça, fait que c'est cave. Mais ouais, vas-y, Edou.
Je disais juste que le PSG, le Bayern va affronter le Paris Saint-Germain en 8e de finale aussi. Ça,
ouais, c'est
juste intéressant parce que ça va être extrêmement difficile pour le Bayern de Munich. La bonne nouvelle pour le Bayern, c'est que Sadio Mané est revenu à l'entraînement. Donc, Sadio Mané risque d'être présent dans 2 semaines pour le premier match de 8e de finale. Mais non, pour vrai, c'est vraiment un peu convaincant du côté du Bayern de Munich. Puis écoute, oui, ils vont peut-être remporter la Bundesliga, mais ce sera pas avec autant d'aisance que dans les dernières années. Mais écoute, en même temps, quand ça fait plus de 10 ans que tu remportes la Bundesliga, à un moment donné, ça fait du bien d'avoir un peu de parité, comme on dit. Hein.
Je suis d'accord. Puis parlant de parité, là, en Ligue 1 aussi, il y a de la parité présentement parce que PSG n'a pas beaucoup de points d'avance. Tu as Lens et Marseille. Qui vont très bien en ce moment. Lens, c'est 3 victoires à ses 5 derniers... aucune défaite à ses 5 derniers matchs. Marseille, 5 victoires à ses 5 derniers matchs. PSG, on a 2 défaites dans les 5 derniers matchs. Donc, vraiment, le PSG est peut-être dans une passe plus difficile, malgré qu'on s'entend là-dessus qu'ils ne sont pas censés là, avoir finir dans une autre position que premier avec l'effectif de fou qu'ils ont. Tu as Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar, tu n'es pas censé avoir de la misère à finir au premier rang. Mais c'est ça qui se passe présentement. Vraiment, Lens me surprend. Là. Fofana, je ne me rappelle plus, j'ai un blanc pour son prénom, mais effectue du gros... Youssouf Fofana. Gros travail en milieu de terrain pour Lens. Marseille aussi va très bien. Donc, voilà, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire.
Seco Fofana.
Seco, excusez. Youssouf, c'est un autre. Mais ouais, Seco Fofana. Gros travail au milieu de terrain de Lens, là, vraiment. Mm-hmm. Puis, c'est ça. Donc, Lens, Marseille vont très bien. Quelque chose à ajouter sur la Ligue 1, les boys?
Non, honnêtement.
À part que le PSG va finir first, là, assuré. Là.
Ils sont pas loin, mais tu sais, je vois pas comment ils peuvent pas finir premier. Là.
Non, c'est ça. Honnêtement, je Je pense que la seule raison qui explique les mauvais débuts de saison, c'est que la Coupe du Monde a pris beaucoup sur ton trio d'attaque. T'sais. Messi a tout donné. Mbappé a été excellent tout le long. Puis Neymar. Neymar. Ben, tu sais, je pense, je suis sûr que je vais blesser. Je suis sûr que je vais blesser pour la Coupe du Monde. Puis ça l'a pas aidé. Puis écoute, tu sais, déjà ton quart dans trio et magané, ça aide pas beaucoup. Mais ouais. Tu sais, c'est sûr qu'ils vont se repasser. C'est la fin de la saison. Là.
Ouais, t'as raison là-dessus. Mais écoute, j'ai vraiment l'impression que le PSG va, comme d'habitude, juste se concentrer à la Ligue des Champions puisqu'ils sont dans la Ligue 1. S'ils ne rentrent pas de la Ligue 1 ou pas, oui, ça va être une déception pour eux de perdre la Ligue 1, mais en même temps, genre, si la gagne, qu'elle gagne par 15 points ou par 1 point, je ne pense pas que ça va changer grand-chose. Ouais, pour eux, c'est vraiment la Ligue des Champions. Là. De se concentrer à battre le Bayern de Munich puis de se rendre le plus loin possible à la Ligue des Champions. Écoute, cette équipe-là a été faite juste pour gagner la Ligue des Champions. C'est pas compliqué. Là.
Non, c'est ça le but pour le PSG, très clairement.
Je pense que je ne sais pas si on en a parlé au podcast ou à nous autres, mais je veux dire, le PSG n'a quand même pas été chanceux dans les tirages ces dernières années.
C'est vrai, ils n'ont pas été chanceux.
On a eu Bayern, on a eu Real. On se fait empoigner le gros match-up de 8e de finale à peu près chaque année depuis 5 ans, 6 ans. Donc ce PSG.
Ouais, c'est vrai, mais les bonnes équipes doivent passer par des grosses équipes, justement.
Oui, hey, exactement.
On dit ça, mais ça n'a pas toujours été vrai, là, mais bon. Voilà, c'est ce qui conclut ce podcast de Jason Ballon Rond. Alors, un beau tour de l'actualité qu'on a fait. J'ai bien aimé ça, les gars. Se fâcher sur Chelsea, toujours très apprécié. Donc, merci pour votre présence.
Ben oui, c'est un fun. Écoute, on charlera la prochaine fois à Gas au Chelsea. Là. Chaque sera
pas certainement. Tu m'as enlevé du stream, Tom. Bon, merci, oui. Je suis de retour. Là-dessus, cher public, je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon reste de saison. L'Impact de Montréal, le CF Montréal, qui débute sa saison avec un nouveau logo, 25 février. Alors, soyez au rendez-vous.
On va sûrement faire un épisode d'ici là, par contre.
On va essayer. Puis Apple TV, hein? Acheter Apple TV.
Ouais, puis aussi.
Tous les matchs, mais il va en avoir RDS. Fait que, voilà.
Mais aussi, gros moment qu'on oublie de parler. Ted Lasso qui a été annoncé saison 3 qui sort au printemps 2023. Perso, je m'en peux plus.
Tout à fait, yes sir. Salut, à la prochaine.